parle du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, il est 8h à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. 5 ans après leur assassinat dans le nord du Mali, les proches des journalistes de RFI, Ghislaine et Claude, attendent toujours de connaître la vérité. C'est dans ce contexte que est célébrée aujourd'hui la journée de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Le processus d'industrialisation est confronté à d'énormes difficultés au Mali et les acteurs du domaine appellent les autorités à faire face à la situation. Ils l'ont fait savoir en prélude à la journée africaine des investissements. Crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Ba persiste qu'il demeure le président de la CENI. Il l'a fait savoir au cours de la restitution des travaux de suivi des élections présidentielles. Voilà pour le titre, le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, 2 novembre, le monde célèbre la journée de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instaurée en 2013 après l'assassinat à Kidal des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. 5 ans après, les circonstances de leur mort ne sont toujours pas élucidées. Les explications avec Mariam Maïga.
Qui a tué Ghislaine Dupont et Claude Verlon? 5 ans après le forfait, difficile de répondre à cette question. Malgré la nomination d'un juge d'instruction en 2014 et l'annonce de la déclassification des dossiers classés secret défense par l'ancien président français François Hollande, les enquêtes piétinent. Mais les amis, parents et proches des deux journalistes ne comptent pas baisser la mobilisation. Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient à Kidal en novembre 2013. Les deux journalistes devaient effectuer une série de reportages sur place. C'est après l'un de leurs rendez-vous qu'ils ont été enlevés à bord d'un véhicule 4x4. Ils ont été retrouvés peu après, assassinés à quelques kilomètres de la ville. Le double meurtre a été revendiqué quelques jours plus tard par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les deux journalistes ont-ils été trahis? Qui les a livrés à leur bourreau? Pourquoi les enquêtes ont du mal à avancer? Autant de questions qui restent encore sans réponse.
Et l'anniversaire de la mort des deux journalistes de RFI à Kidal intervient au moment où la presse malienne continue de s'interroger sur les circonstances de la disparition de Birama Touré. Tout comme la mort de Ghislaine et Claude, cette disparition suscite la colère et l'incompréhension des journalistes maliens qui réclament plus de protection. Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook et notre compte Twitter ou encore sur nos répondeurs au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Le Mali abritera la journée africaine des investissements du 29 novembre au 2 décembre 2018. Placée cette année sous le thème Made in Mali ou Consommer Malien, cette journée vise à promouvoir le dialogue et le partage d'expériences entre les acteurs. Elle intervient pourtant au Mali au moment où le processus de l'industrialisation est confronté à plusieurs défis. Moumine Sendebou.
Parmi ces défis, l'accès à l'électricité ou encore à la capacité des acteurs à faire face à la concurrence. Cette situation constitue un frein, entre autres, au processus de transformation des produits locaux au Mali. Elhadj Lamfia Camara, vice-président de l'organisation patronale des investissements.
Le Mali est un pays agricole. Quand on produit, il faut transformer. Les principales difficultés, c'est que nous n'arrivons pas à vendre sur notre propre marché. Nous sommes concurrencés par des produits qui rentrent par la fraude. Nous avons des coûts d'exploitation élevés. L'électricité est plus chère chez nous que chez nos concurrents. Au-delà de ça, les banques ne suivent pas parce qu'effectivement, les difficultés inhérentes, les banques préfèrent payer le processus de commercialisation que d'investir dans l'industrie.
Face à ces difficultés, le ministère de la promotion de l'industrie ambitionne d'adopter la stratégie d'industrialisation. Selon le ministre Moulay Ahmed Boubacar, cela permettrait non seulement de relancer le secteur, mais aussi et surtout de booster l'économie du pays.
Je pense que aujourd'hui, l'industrialisation du Mali est une obligation pour la relance économique, sinon le décollage économique du Mali. Parce que pour développer un pays, il ne s'agit pas seulement que de courir derrière les recettes fiscales, mais même les recettes fiscales. fiscales vont connaître une hausse plus importante lorsque nous arrivons à créer des entreprises qui génèrent des ressources, qui génèrent des revenus.
L'organisation de cette journée africaine des investissements va donc consacrer la réflexion sur les stratégies de surmonter les obstacles liés à l'industrialisation. Pour cette rencontre à Bamako, plus d'une centaine de participants sont attendus.
8h05 à Bamako, les magistrats décident de reprendre le travail à partir du lundi prochain. À l'issue d'une assemblée générale tenue hier jeudi, les deux syndicats de la magistrature ont annoncé la suspension de leur mot d'ordre de grève illimité. Toutefois, les promoteurs d'écoles privées, les travailleurs des collectivités ou encore les enseignants de l'école normale supérieure poursuivent leur mouvement. Plus de détails avec Adama Amadou Aïdara.
Après plus de 3 mois d'arrêt de travail, les syndicats de la magistrature ont suspendu leur mot d'ordre de grève ce jeudi. L'information a été confirmée par les responsables du syndicat autonome de la magistrature au sorti d'une assemblée générale, mais sans donner plus de détails. Les magistrats réclamaient des meilleures conditions de vie et de travail. Ont-ils obtenu satisfaction? Difficile d'en savoir pour l'instant. Cependant, d'autres mouvements de grève sont en cours dans le pays. C'est le cas du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales qui observe depuis ce mercredi une grève de 3 jours dans plusieurs localités du pays. Les grévistes réclament le paiement des arriérés des salaires et l'élaboration d'un plan de carrière pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Dans le domaine de l'éducation, le comité du syndicat national de l'enseignement supérieur de l'école nationale supérieure ENSUP a aussi entamé une grève illimitée hier mercredi. Il demande au ministre de l'enseignement supérieur d'appliquer la loi 049-2014. Selon eux, cette loi décrit les conditions de nomination du directeur général de l'Institut par appel à candidature. Ainsi, ils estiment que l'actuel directeur ne répond pas aux critères de sélection. Quant aux promoteurs des écoles privées agréées du niveau secondaire, ils restent campés eux aussi sur leur position. Ils déclarent que tant que le paiement intégral de leurs arriérés n'est pas effectif, la grève sera toujours maintenue.
Je vous le disais dans les titres, Amadou Ba persiste signe qu'il demeure le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, alors qu'on le disait destitué la semaine dernière. Il l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était de faire la restitution des travaux de suivi des élections présidentielles. Selon M. Ba, la CENI, qui se dit sereine à aborder les élections législatives prochaines, les présidentielles s'y sont déroulées dans une transparence totale. Amadou Ba au micro de Adam Koulibaly.
Nous avons une mission à la CENI, la supervision et le suivi du processus électoral. Nous l'avons fait avec honneur et dignité. Nous avons conduit un processus inclusif, un processus transparent où le gouvernement du Mali a créé les conditions démocratiques pour aller au vote. On a permis et à l'opposition et à la majorité par leurs assesseurs d'être dans tous les bureaux de vote. Ça, c'est un gage de transparence des élections. On a organisé un audit du fichier électoral avant les élections et le comité d'audit était présidé par mon premier vice-président qui vient de l'opposition. Je n'ai pas fait pour piéger les gens, mais j'ai fait parce que c'est l'opposition qui a réclamé l'audit du fichier électoral et le premier ministre Boubé a autorisé et a saisi l'OIF qui nous a envoyé des experts internationaux. Un comité d'audit présidé par la CENI est composé d'experts de la majorité de l'opposition, de la société civile et de partis du centre. Ce travail a été fait avec brio, c'était encore pour renforcer la confiance dans le système. Tout cela a été fait, des réformes ont été faites. On est venu aux élections.
Parlons à présent processus de paix. 1600 combattants issus du mécanisme opérationnel de coordination MOC, affiliés à la CMA, à la plateforme ou aux autres groupes signataires ou dissidents, seront intégrés dans les forces armées maliennes. Ce processus débutera du 6 au 30 novembre prochain. Ces informations ont été communiquées hier par la section réforme de la sécurité du DDR de la MINUSMA. Toutefois, ces responsables affirment qu'il faut remplir les conditions telles que avoir l'âge requis, la qualification, l'expérience militaire et le niveau d'études. Ceux qui ne remplissent pas ces critères iront à la réinsertion économique. Sambatal, directeur de la réforme de la sécurité du DDR à la MINUSMA, au micro de Emirana Kilumaïga.
La CMA et la plateforme qui ont déjà chacune 200 combattants dans le MOC de Gao, qui auront 200 dans le MOC de Kidal et 200 dans le MOC de Tombouctou, soit 400 combattants venant de ces deux mouvements par cycle. Plus 200 du gouvernement et les gens venant des mouvements dissidents, ça nous fait un total de 1600 comme je l'ai dit. Chaque combattant décidera au cours de ce processus s'il veut rester dans le MOC qui sera intégré dans les forces armées maliennes ou bien s'il veut rejoindre la réinsertion socio-économique. Il faut noter que tous ceux qui vont être intégrés dans les forces de défense et de sécurité maliennes doivent remplir les critères qui ont été acceptés par les trois parties au mois de novembre passé. Une fois intégrés, ces bataillons du MOC seront les premières unités reconstituées chargées d'assurer la sécurité sur les sites de cantonnement et lors du processus global de DDR et d'intégration.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Voyons à présent ce qui fait l'actualité à l'intérieur du pays. À Gundam, 10 villages ont été dotés en château d'eau. Le projet a été réalisé sur 10 mois et financé par l'Office of US Foreign Disaster Assistance. Il s'inscrit dans le cadre du programme amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène pour les populations vulnérables et les enfants malnutris du cercle de Gundam. Plus de 2000 femmes ont aussi été formées afin de lutter contre la malnutrition dans la localité. Le cercle de Kati a enregistré 1109 mm de pluie entre le 1er mai et le 31 octobre 2018. Selon Sidiki Ndao, le chef du service d'agriculture de Kati, cette quantité de pluie est comparativement supérieure à celle de l'année dernière qui était de 9987 mm à la même période. 11 radios communautaires du cercle de Bourem ont été équipées ce jeudi par la MINUSMA. Elles ont bénéficié d'émetteurs, de consoles de mixage et de 2 dictaphones chacune. Le montant de la donation est estimé à 23 millions de francs CFA. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Sekou Gadjigo. La mise en onde était assurée par Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi.